Nous sommes trois professionnels de l'éducation du Conseil scolaire Viamonde. Puisque nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
OK, en effet, nous avons toute la classe. Suivez-nous dans notre deuxième saison afin de poursuivre des conversations sur de nouveaux thèmes en éducation, tels que la réponse à l'intervention,
le bien-être,
les sciences,
les maths
et bien plus encore.
Bonjour. Aujourd'hui, on accueille Dominique Tremblay, ici à toute la classe avec nous. Bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être venu. Tu es parti tôt ce matin.
Oui, ça me fait plaisir de me joindre à vous.
Excellent, merci. Pour commencer, est-ce que tu aimerais juste te présenter un petit peu puis nous parler de ce que tu fais dans la vie?
Oui, donc moi, Dominique Tremblay, j'ai été enseignant pendant 13 ans dans la belle ville de Trenton, en Ontario. Une petite école sur une base militaire, maternelle à 12e année sous le même toit. Je vais même dire mon âge maternel à 13e année lorsque j'étais enseignant. Et puis, depuis 10 ans, j'ai ma propre entreprise et j'offre des services de formation et d'accompagnement aux différents conseils scolaires, commissions scolaires, divisions et districts là, d'un bout à l'autre du pays.
Et lorsqu'on te voit dans des conférences, souvent, tu es en train de jouer avec du Lego. Est-ce que c'est ça ta job?
Un petit peu, oui. C'est un intérêt personnel et ça fait aussi en partie... partie de mon travail. Dans ma vie personnelle, je suis un joueur compulsif de Lego. Un village complet dans mon sous-sol ça arrête pas la construction. Donc, c'est une belle façon de me détendre le vendredi soir. Mais dans un cadre pédagogique, j'offre plusieurs ateliers qui sont en lien avec le Lego. Entre autres, aujourd'hui, on va parler de Lego et robotique. Mais je fais aussi beaucoup de Lego numératie, Lego littératie et Lego science. Donc, comment introduire l'aspect ludique du Lego, mais pour faire des apprentissages dans les différents domaines, les différents sujets là, à l'école.
C'est cool, hein?
Oui, c'est très intéressant parce que je pense qu'on voit souvent que lorsqu'on... les enseignants sont très, très curieux. Ils veulent utiliser de la robotique, mais ce n'est pas toujours évident de faire ces liens entre les curriculums et la robotique.
Oui.
Et puis, toi, tu fais ça à travers le pays?
Oui, oui. Donc, je suis ici aujourd'hui et puis la semaine prochaine, je pars à La Tabatière dans le nord du Québec. Et la semaine suivante, je vais à Vancouver. Donc, c'est vraiment vivre d'un bout à l'autre, d'un océan à un océan à un océan. Donc, partout au pays, là, pour amener la robotique, mais aussi les pratiques pédagogiques innovantes, là, que ce soit en mathématiques, en sciences, en technologie. Les fameuses STIAM sont très populaires ces temps-ci.
Il y a deux sujets parallèles. Il y a le Lego en salle de classe, puis il y a la programmation en salle de classe. Pourquoi est-ce que la programmation Lego en salle de classe peut être un outil intéressant pour les élèves, et ben, pour les enseignants et les élèves?
Oui. Bien, quand on parle de programmation, évidemment, on parle de toute l'idée de la pensée algorithmique. Donc, que l'élève est capable de prendre un problème et enseigner à un ordinateur ou à un robot comment exécuter une tâche. Que ce soit à l'aide de moteurs, de lumière, de haut-parleurs, de capteurs. Quand on amène le Lego, la différence entre utiliser, par exemple, un robot de Lego versus un robot traditionnel, c'est que le robot traditionnel vient tout monter. Les capteurs sont déjà placés à certains endroits. Donc, par exemple, si on a un capteur de distance, un capteur couleur, vu qu'ils sont déjà dans un cadre de plastique à un certain endroit, l'enfant ne peut pas le modifier. Donc, s'il voulait lire une couleur, disons, devant, mais le capteur couleur est placé, orienté vers le plancher, ce n'est pas possible. Avec le Lego, les possibilités sont illimitées parce que ce sont des blocs. Donc, on place les différentes briques, les différentes pièces, et ensuite, on peut attacher les moteurs, les capteurs dans toutes sortes d'orientations. Fait que je trouve que ça stimule encore plus la créativité qu'utiliser un robot tout fait. Il y a un désavantage à ça. Par contre, les gens reçoivent la trousse et il n'y a pas de robot monté. Donc, on a un temps nécessaire pour monter le robot. Puis je pense que c'est là que le Lego devient intéressant, par contre.
Fait que, évidemment, d'après ce que j'entends, c'est que avant même d'aller monter ce robot-là, il devait avoir un petit peu, quand même, un petit peu de connaissances à propos, comme par exemple, des capteurs. Est-ce que avant que tu arrives dans une salle de classe, est-ce que c'est un enseignement qui a déjà été fait ou est-ce que tu le fais en parallèle?
En fait, ce que je vois beaucoup, c'est des classes où je rentre et on me dit « Ah, mes élèves ont déjà fait du Scratch ou du code.org ». C'est ce que j'entends le plus. Évidemment, c'est un avantage parce qu'ils connaissent déjà certaines structures de la programmation. Des boucles, des sélecteurs, des variables, ce genre de choses-là. Si c'est déjà connu, bien évidemment, ça va plus vite. Mais on peut aussi apprendre par la résolution de problèmes, sans connaître ça d'avance, et en explorant avec le matériel, venir qu'à découvrir l'utilisation de chacun de ces capteurs-là à travers des tâches.
Mm-hmm. C'est vraiment juste pour dire, comme, si on te donne une boîte de quelque chose, mais là, tu vas commencer à regarder à chaque pièce, mais qu'est-ce que ça devrait faire? Qu'est-ce qu'une autre pièce, ça devrait faire? Puis là, en faisant ça, on le met ensemble.
On met ça ensemble, oui. Là, puis je trouve que les habiletés sont très transférables aussi. Un élève qui a déjà travaillé avec un type de robot, quand il prend un autre type de robot, la programmation sans être nécessairement la même est très similaire.
Surtout quand on parle le langage Blockly,
oui.
Quand on est capable d'utiliser un langage, c'est facilement transférable à une autre plateforme.
En fait, une des tendances qu'on voit totalement ces temps-ci, c'est qu'il y a trois plateformes de programmation qui deviennent le standard pour tous les robots qui sortent. Même Lego est en train de se diriger vers une de ces trois plateformes-là. Donc, il y a le Scratch,
oui.
Le Blockly et le Python. Pour les jeunes au secondaire. Et tous les robots semblent se diriger vers un de ces trois langages-là, dépendant du niveau d'âge. Blockly et Scratch, pratiquement la même chose. Et Python, bien, c'est de la programmation. Là. Si vous en avez déjà fait au collège ou à l'université, c'est du texte. Il ne faut pas oublier aucune ponctuation là-dedans. La syntaxe est extrêmement importante.
Bien, ça aussi, c'est un parallèle qu'on peut faire avec la syntaxe la grammaire.
Ben, oui, oui.
Intéressant. Je voulais te demander, puisque les trousses Lego, ça offre plus de possibilités parce que c'est plus flexible, mais ça veut dire aussi que c'est un peu plus complexe.
C'est ça.
Alors, pour quel âge est-ce que tu dirais, ou par où est-ce qu'on pourrait commencer avec ça?
Ben, c'est que Lego se sont organisés pour aller chercher tout le marché. De la maternelle jusqu'à la 12e année. En commençant avec le Duplo Express du codage, ou en anglais le Duplo Coding Express, c'est du Duplo, donc les plus gros blocs.
Mm-hmm.
C'est un train, donc c'est un rail de chemin de fer, et l'enfant met des éléments de code le long du rail. À mesure que le train avance, il lit les éléments du code, qui sont juste des tuiles de couleurs, et fait des actions.
Alors, il y a une vraie progression dans l'apprentissage.
Oui, c'est ça. Fait que là, tu as une séquence le long de la rail de chemin de fer, puis le train, il peut être transformé. Le train, au début, l'enfant, tu peux le construire comme un train, mais après ça, tu peux le transformer en chenille, par exemple. Mm. Tu fais juste le redécorer avec des Legos différents. Fait que ça, c'est le Duplo Coding Express qui s'adresse spécifiquement au cycle préparatoire, maternelle jardin. Ensuite, on passe au WeDo, où là, on peut travailler avec des enfants plus jeunes, un peu plus vieux, donc, c'est-à-dire de première année jusqu'à troisième, quatrième à la limite. Et tu as le EV3 qui est utilisé pour le secondaire. Fait que ça, c'est vraiment la trousse. Et qui est utilisé, souvent, on commence à le voir en 5e, 6e, jusqu'à la fin du secondaire.
Mais là, on entend qu'entre le WeDo et puis le EV3, il y a un gap.
Exactement.
Et là, si je comprends bien, c'est pour ça que tu es ici.
Eh oui. Ben justement, je pense que c'était au mois de mars, mes amis qui travaillent chez Lego ont commencé à nous aguicher. Ils ont mis des photos sur Facebook où on voyait le train Duplo Coding Express. On voyait le WeDo, on voyait le EV3, et entre le WeDo et le EV3, il y avait un gros point d'interrogation.
Ouais, je te dirais que c'est assez déclencheur quand même.
C'était très déclencheur, ça a fait parler tous les nerds de robotique et de Lego.
Ils prenaient des bêtes de qu'est-ce que ça allait être.
Et là, quelques semaines plus tard, ils nous ont annoncé une nouvelle trousse qui s'appelle le Lego Spike Prime. Et la trousse Lego Spike Prime, j'ai eu la chance de commencer à jouer avec à partir du mois de juin, mais elle va sortir officiellement pour les écoles à partir de janvier.
Alors, tu as vraiment des amis à Lego.
Oui, et chez le fournisseur canadien, le Bruit Boutier, qui m'a permis d'accéder à une des trousses pour faire des formations, commencer à préparer les formations.
Je suis allée à une des formations cet été, et moi aussi, j'ai joué avec
Elle a eu la chance Spike de jouer Prime, avec, oui. Exactement.
Est-ce que, selon toi, c'est ce besoin de combler le trou, la progression, que cette nouvelle trousse-là est sortie?
Certainement. Parce que le WeDo, veut pas, c'est intéressant pour des plus jeunes, mais on passe rapidement à travers les possibilités du WeDo. On parle d'une trousse qui a trois capteurs, un capteur d'inclinaison, un capteur de distance et un capteur sonore qui est en fait même pas dans la trousse, mais qui est sur l'iPad. Donc, au niveau capteur, c'est assez limité. La trousse WeDo ici, elle est très qualitative versus quantitative. Autrement dit, si on prend le capteur d'inclinaison, il est incliné vers l'avant ou il ne l'est pas. Il est incliné vers l'arrière ou il ne l'est pas. Tu ne peux pas dire à partir de 37 degrés d'inclinaison, fait telle action. Mm-hmm. Donc, c'est très qualitatif. C'est fait pour les plus jeunes où souvent, à cet âge-là, ils ne connaissent pas les angles. Mm-hmm. Ils n'ont pas encore travaillé la mesure conventionnelle beaucoup. Oui. Donc, c'est vraiment une trousse faite pour ça. Mais, donc, c'est difficile de dire je vais pousser ma trousse de WeDo jusqu'en sixième année. Les enfants viennent à trouver ça trop bébé. Oui. Le EV3, pour sa part, c'est le standard des compétitions internationales. Mm-hmm, mm-hmm. Si vous participez à la World Robot Olympiad, la WRO, c'est du EV3 qui est utilisé partout. C'est une trousse où, moi, ce que je trouve, c'est que la plupart des enseignants utilisent peut-être 10 à 15 % des possibilités de la trousse et du langage de programmation. Mm-hmm. On se limite à quelques blocs verts et oranges dans l'interface de programmation, mais on oublie d'aller voir tout ce qu'il y a dans les blocs mathématiques, les blocs rouges. Mm-hmm. Elle est super pour le secondaire. On commençait à l'utiliser en 5e, 6e de façon très... préliminaire, mais il manquait quelque chose. En fait, ça faisait beaucoup peur aux profs de 5e, 6e, parce que le logiciel qui vient avec est basé sur LabVIEW. C'est quand même très complexe. C'est des petits fils à déplacer partout pour transférer des valeurs. C'est quand même une interface assez complexe pour des débutants en robotique.
Oui, mais surtout des débutants en mathématiques aussi. Tu mets les deux en même temps, sachant que on est un peu inquiet au niveau de la mathématique, on est un peu inquiet en faisant de la programmation, puis là, en faisant les deux, on se perd complètement.
Absolument. C'est ça. Donc, ils ont sorti le fameux Lego Spike Prime, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on va observer des salles de classe et des profs qui utilisent le EV3. Ils ont aussi observé, de façon secrète, l'utilisation du logiciel. Pour voir quel bloc les jeunes utilisent.
De façon secrète.
Ben, de façon... Ils gardent des statistiques sur notre utilisation du logiciel EV3. Ouais. En fait, quand j'ai rencontré un de mes contacts chez Lego, il m'a dit, oui, tel bloc et tel bloc sont utilisés 30% du temps, tel bloc est utilisé 0.01. Ouais. Ils ont des statistiques sur notre utilisation du logiciel.
Mais ce qui fait qu'ils connaissent leur marché...
Exactement. Par cœur, ouais. Donc, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit, il faut trouver tous les points où ça accroche et qu'on règle ça. Mm-hmm. Donc, les points ça accroche. La synchronisation avec le Bluetooth, c'est un point qui accroche. Un exemple. La construction. Les enfants étaient capables de construire selon les instructions du logiciel, mais lorsque venait le temps de construire par eux-mêmes, il y avait un certain barrage parce que ça utilise le Lego technique.
Ouais.
Et bien, les élèves sont habitués plus au Lego traditionnel. Le Lego traditionnel qui contient des tenons. Donc, qui s'attachent avec des tenons et des tubes. Ça, c'est du Lego traditionnel.
Mais et l'idée ça, pour les gens qui n'ont pas le visuel, là, c'est les petites pinouches par-dessus le bloc de Lego.
C'est ça.
des effets sonores.
Tandis que le Lego technique, qui utilise des poutres et des clavettes, pour les gens qui ne voient pas...
C'est ça. C'est comme la barre avec des trous dedans.
C'est ça. Puis la clavette, c'est comme un petit clip que tu mets qui te permet d'attacher une autre poutre. Et cette technique de construction-là n'est pas maîtrisée à 100% par les élèves plus jeunes.
Ouais.
Et les moteurs avaient des formes bizarres aussi, où c'était difficile de les attacher. Et il manquait de trous. Souvent, là, ils disaient, je voudrais attacher, j'ai pas de trous disponibles. Mm. Comme disait mon grand-père, il manque de poigne, tu sais. Donc, ils ont créé des pièces, puis je vais essayer de la décrire là, pour les gens qui nous écoutent. Une planchette. Vous êtes habitués à la planchette avec des tenons? Bien, maintenant, il y a une planchette de Lego technique. Donc, une planchette pleine de trous. Fait que quand vient le temps de mettre nos poutres, on en a des trous où on peut attacher des choses. Les moteurs ont des formes de prises à base rectangulaire maintenant. Donc, c'est une belle forme, très uniforme, vraiment facile. Les fils ont maintenant la possibilité, ils sont très, très minces, donc ils peuvent être cachés. Tu n'es pas pris avec des fils qui prennent beaucoup d'espace à l'arrière. Tu peux prendre un capteur et pratiquement le coller sur tes briques. Mm-hmm. Fait que ça, c'était des problèmes qui existaient. D'autres choses qui ont réglé, les fameuses roues. Les roues dans le EV3 étaient des roues qui avaient des pneus qui étaient souples. Donc, ça amenait beaucoup d'imprécision au niveau du mouvement. Tandis qu'ici, maintenant, on a des pneus avec du caoutchouc qui est dur. Donc, ça donne des mouvements beaucoup plus précis. Fait que, par exemple, pour ceux qui font des maths on place un crayon feutre sur le robot, mm-hmm. on essaie de dessiner des figures géométriques. Ben maintenant, on a des lignes beaucoup plus droites, on a des angles beaucoup plus précis, ouais. parce qu'on n'a plus l'imprécision des roues plus flexibles qui causaient ce genre de problème.
Parce qu'avant, ça faisait probablement des zigzags.
Tu avais des lignes qui étaient légèrement croches et tout ça. L'autre problème qu'ils ont réglé, c'est que les gens, ils se sont aperçus, puis je le vis en formation, je visite des écoles, pratiquement personne n'utilise le gyroscope jusqu'à temps qu'il y ait une formation avec moi. Ils n'osent pas y toucher à ce gyroscope-là. Pourtant, le gyroscope, c'est le capteur qui nous permet d'orienter notre robot. Donc, si on veut faire des beaux angles de 90, des angles de 60 degrés, pour un triangle équilatéral, par exemple, c'est important de bien utiliser le gyroscope. Bien, là, maintenant, le gyroscope, il est intégré. Et dans le logiciel, tu peux dire au robot « tourne de 90 ». C'est intégré. Évidemment, pour les puristes, c'est comme « ah, c'est plate, les enfants ne comprennent plus le fonctionnement d'un gyroscope ». Mais
ils peuvent l'apprendre plus tard.
Ils peuvent l'apprendre plus tard avec la trousse de V3. C'est ça. Mais pour les enfants, on parle le public cible, 5e, 6e, 7e, 8e année environ. Ça permet d'aller plus vite dans les concepts de maths. Tu sais, on veut faire des angles supplémentaires, des angles complémentaires, un triangle équilatéral, un rectangle dont la longueur est le double de sa largeur, par exemple. Ça permet facilement d'aller chercher des concepts comme ça sans avoir trop à comprendre l'électronique et la mécanique derrière le robot. Fait que c'est ce qu'ils ont visé, là. Et ils ont créé des nouvelles pièces aussi. Vous avez
Puis les nerds de Lego vont vraiment être contents.
Les nouvelles pièces?
Ah oh, oui.
Ah, oh, le biscuit, qui est déjà même utilisé par autre chose que le Lego Spike Prime, là, dans les trousses qui vendent là, au Lego Store. Là. Ils ont commencé à utiliser le biscuit, qui est un élément qui nous donne des trous un peu partout. Fait que ça rend les connexions beaucoup plus faciles. Entre autres, ils ont créé un nouveau Lego qui est notre Lego traditionnel avec tenon, le 2x4 là, régulier. Si on pense Lego, là, c'est quoi le morceau traditionnel? Mais ils ont placé des trous cruciformes en forme de croix qui nous permettent ensuite de mettre des essieux. Donc, ça permet d'attacher des éléments techniques à un Lego traditionnel.
Puis là, tu dis, ben ouais, mais pff, OK, mais pourquoi? Mais quand tu es en train de combiner tes trousses, c'est des éléments qui te permettent d'aller beaucoup plus loin dans ta construction. Puis ça permet aussi à l'enfant de sortir du cadre plutôt prescriptif que propose Lego, puis d'aller en créer des... Et là, par prescriptif, là, je veux dire, comme étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, mais entre étape 1 puis 2, là, t'as plein d'affaires que tu peux aller ajouter, puis c'est bien pour ça.
Ceux qui ont utilisé la trousse V3 aussi, vous avez vu qu'il y a seulement 3 cadres. Les cadres, ça permet d'ajouter de la résistance structurale.
Ils sont petits, en plus.
Ils sont très petits. Dans la trousse Spike Prime, ils nous ont sorti plein de cadres maintenant. Fait que ça devient beaucoup plus facile de construire un robot parce qu'on a maintenant des cadres pour tenir les différentes pièces. Fait que ça rend ça beaucoup plus facile.
Personnellement, pour avoir essayé la trousse cet été, ce que ma pièce préférée, il y en a deux, mes pièces préférées, c'est la planchette qui nous permet d'avoir comme une certaine structure pour partir et l'attache-fil.
Oh, j'ai oublié d'en parler. Je suis subjugué par la quintessence de ta perspicacité. Même sur mon robot, j'ai pas encore mis d'attache-fil, mais les fils sont toujours d'un genre.
Ils sont tout le temps d'un genre.
Tout le temps d'un genre. Puis dans un combat de sumo, la dernière chose que tu veux, c'est que tes ennemis t'attrapent par tes fils.
C'est ça.
Ouais. Donc, il y a maintenant des petits clips à fil que tu peux ensuite, un coup que tu as clippé ton fil, venir l'attacher là, avec une clavette à n'importe quel endroit sur le robot.
C'est comme un tie-wrap.
Oui, puis son...
un tie-wrap à Lego.
Ouais. Voilà. Ils sont colorés. Donc, l'enfant pourrait même se mettre des codes de couleur. Par exemple, mes capteurs couleurs sont tout en vert. Donc, choisir un code de couleur. Fait que ça rend
J'entends mon frère, là, je l'entends penser, qui dit « Mais est-ce que je peux acheter juste les attaches couleurs? »
Oui. En fait, même si Spike Prime n'est pas encore officiellement disponible, les pièces à l'unité... moi, j'ai commandé des pièces à une team bien avant de recevoir ma trousse.
OK, fait que c'est possible d'avoir des biscuits.
C'est ça.
Oh, est-ce que ça veut dire que, comme par exemple, si tu dis ça, fait qu'on peut acheter des pièces puis l'utiliser dans d'autres trousses?
Oui.
C'est ça.
Oui. Alors, comme on ne s'attend pas pour le concours, par exemple, en Hongrie, dans 3 semaines, de voir de Spike Prime, parce qu'en théorie, ils ne sont pas censés y avoir accès.
Ouais.
Mais on peut s'attendre peut-être à voir quelques pièces de Spike Prime sur des Lego EV3. Ça pourrait arriver, ça.
Et ça sort quand?
Janvier 2020.
Mais là, tu me dis que dans 3 semaines, tu t'en vas en Hongrie?
C'est les internationaux de robotique.
De toute évidence, oui. Ouais. Mais en Hongrie, c'est clair. Toi, t'es où en 3 semaines? Brampton.
Aussi, au niveau des capteurs, ils ont acheté, je vous ai déjà parlé du gyroscope qui est intégré, donc l'enfant n'a plus besoin de comprendre le fonctionnement du gyroscope. Il y a encore un capteur couleur et un capteur de luminosité comme on est habitué. Par contre, le capteur de pression est vraiment intéressant, parce qu'au lieu d'être juste on-off, appuyé ou non, maintenant, tu peux mesurer la force en newton. Jusqu'à quel point tu appuies dessus. Donc, si un élève se fait un pare-choc, un beau bumper en bon français, là, et il met son capteur attaché au bumper, bien, avec l'ancienne trousse, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui appuie ou non? Là, on pourrait dire jusqu'à quelle force ça appuie. Par exemple, dans un combat sumo, ça pourrait être intéressant de mesurer la force à laquelle je suis en train de pousser mon ennemi.
Ah,
oui,
ça, c'est intéressant.
Je me rappelle quand j'enseignais les sciences en 4e, on parlait de la force. Est-ce que c'est possible de faire des... comme des expériences scientifiques avec des poulies pour voir combien de force ça prend pour soulever quelque chose?
Totalement. À se rappeler, par contre, que c'est seulement en compression et non en tension.
OK.
Donc, ça pourrait être utilisé, par contre, si on est en train d'appuyer sur le capteur et non en train de tirer. Fait que c'est un capteur en compression. Mais quand on voit la différence entre compression et tension aussi,
ça peut être intéressant. Tu peux tirer par en bas.
C'est ça. Finalement, la dernière chose qui est vraiment intéressante, c'est que le capteur à ultrasons qu'on est habitué, là, ce que j'appelle souvent les yeux de Wall-E, là, sur tous les robots, là, un capteur à ultrasons qui fonctionne comme une chauve-souris, ça envoie des ultrasons, ça frappe un objet, ça revient. Maintenant, vous allez remarquer qu'il y a des petites vis à l'arrière. Si je le défais, il y a 2 petites vis. Et normalement, tu sais, tout appareil électronique, là, ils nous le disent, hein, si vous ouvrez les petites vis, void warranty,
ouais,
c'est illégal. En fait, dans le manuel, Lego suggère d'ouvrir le capteur ultrason. Et ce qu'on découvre, c'est des petites pins. Si vous avez déjà utilisé, par exemple, des Arduino et des Raspberry Pi, et même des microbits, à la limite, tu as des endroits où tu peux brancher des choses externes.
Oui.
Donc, ils nous permettent de bidouiller. Comme on dit en bon français, de gosser.
Ouais.
Donc, si on s'achète des capteurs pas chers sur Internet,
c'est ça.
On n'est plus limité juste aux capteurs faits de plastique de Lego, mais on pourrait se brancher en utilisant ces petites broches-là, ou les pins, de nos propres capteurs dessus.
Fait que là, si je comprends bien, si j'ai un microbit, je peux le rendre compatible à mon Spike Prime.
Ben, en fait, par l'interface Scratch maintenant, tu peux faire n'importe quelle de ces choses-là. Parce que l'interface Scratch, la plupart des gens ne vont pas voir le petit icône en bas qui s'appelle « Ajouter des extensions ».
Oui, c'est 2 lignes comme
avec un point,
avec un petit plus.
Oui, on oublie que ça existe, ça. Et ça, c'est merveilleux parce que quand vous allez arriver là, vous allez voir un WeDo, un V3, un Lego Boost, un Microbit. Et tu peux ajouter ces extensions-là et ce qui se passe, c'est que tu peux faire travailler les robots ensemble. If mon microbit détecte une inclinaison de ça, alors mon Lego Boost ou mon Lego Spike ou mon Lego EV3 va faire ça. Ce qui peut être intéressant, même dans les écoles, on pourrait même avoir des jeunes qui utilisent le WeDo qui font une interface qui va commander le robot d'un plus vieux qui fait du EV3.
Ça, c'est la pouvoir de l'ego. Là.
Donc, ça devient de la collaboration.
C'est ça.
Maintenant, juste pour préciser que cette partie-là n'est même pas faite par l'ego. C'est faite par, le Scratch, qui est un organisme à but non lucratif. Mm-hmm. Là. Donc, si vous allez dans le logiciel Scratch, sur le site de Scratch, vous allez remarquer que c'est quand même limité, les blocs de programmation, parce que ce n'est pas fait par l'ego, c'est fait par Scratch. Par contre, si vous allez dans le logiciel Spike Prime, on dit que c'est basé sur Scratch, mais c'est une version modifiée par Lego du logiciel Scratch.
Alors là, ça va être un peu plus spécifique.
Oui, sauf que là, tu n'auras pas tous les robots comme sous forme d'extension, ouais, tu vas avoir juste ton Spike Prime.
Alors, tu peux travailler en profondeur ton Spike Prime sur la plateforme ça. Lego
ou tu peux combiner avec juste la base pour chacun des robots.
Ouais.
Alors, je pense qu'en t'écoutant, les gens qui utilisent déjà d'autres trousses Lego sont vendus, sont convaincus qu'ils ont besoin de ça dès le mois de janvier. Est-ce que tu pourrais parler aux débutants, aux gens qui n'ont pas encore entamé la programmation dans leur salle de classe? Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui aimerait débuter, qui est peut-être pas complètement à l'aise?
Mm-hmm. Ben, en fait, ce qui est intéressant avec une trousse comme ça, c'est que vu qu'on utilise un langage facile, les mots, puis Scratch, on peut le mettre en français aussi, ce sont des mots simples. Par exemple, tu vas avoir des choses comme avancer 10 cm à une vitesse de 20 cm par seconde, par exemple. Fait que tu mets des blocs de programmation comme ça, tourner 90. Donc, faire une séquence est quand même vraiment facile d'approche. T'as pas... Tu sais, quand je commence une formation à V3, là, OK, t'as ton moteur B, t'as ton moteur C, mets-tu plus de pouvoir sur le moteur C, moteur B, c'est quand même difficile d'approche. Si vous n'avez jamais fait de programmation, une trousse comme Spike Prime, c'en est une où c'est plus facile d'approche. Si vous avez déjà fait du Scratch, vous avez un avant. Si vous n'avez jamais fait de Scratch, vous allez voir quand même que la liste des commandes, elle est relativement simple.
Alors, faites un compte Scratch maintenant,
oui.
Qui a commencé la c'est programmation, gratuit. Et puis au mois de janvier.
Puis il y a tellement de tutoriels en ligne pour faire des projets Scratch. Ouais. Et Scratch aussi, tu peux même aller voir les projets des autres, mm-hmm. puis voir en arrière-plan comment est-ce qu'ils ont fait le projet.
Scratch fonctionne en communauté, fait que je peux aller prendre un projet qui a été fait par un expert,
puis le modifier,
me l'adapter, voir comment ça a été fait, et mettre des bugs dedans pour voir comment ça affecte le programme.
Ouais. Une salle de classe avec disons 25 élèves. On aurait besoin de combien de trousses pour pouvoir faire des
projets? On parle toujours de l'idéal versus le réaliste. Oui. Là. Donc, l'idéal, ça serait d'y aller à 2 élèves par trousse, mais on peut aller à 3 ou 4 élèves par trousse. Là. Évidemment, si on va jusqu'à 3 ou 4 élèves par trousse, ma suggestion, c'est de leur donner des roues. T'as un programmeur qui s'occupe d'ordi, t'as un constructeur, t'as un chercheur de pièces et t'en as un qui est sur le tapis à faire les mises à l'essai. Et de temps en temps, on change de rôle pour pas que ça devienne ennuyant. Fait que c'est important de lui fournir des rôles comme ça pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui fasse absolument rien puis les autres fassent tout.
Mais ça, c'est peu importe le projet. Ça pourrait être un projet d'écriture. Ça oui, peut être... Alors, c'est l'idée de chacun contribuer à l'équipe.
C'est ça. Mais en nommant des rôles comme ça, ça leur indique aussi quels pourraient être les rôles possibles au sein d'une équipe.
Qu'est-ce que je m'attends de toi?
Exactement. Maintenant, une des choses que je recommande pas, c'est du un pour un. Puis je le vois souvent dans les petites écoles où ils ont souvent reçu le même budget que les grosses écoles, mais là, ils se ramassent qu'ils ont 10 élèves dans la classe puis il y a 10 trousses. Il y a zéro communication.
Mm-hmm.
C'est vraiment ennuyant du un pour un. Je le recommande surtout pas.
Mais au niveau des compétences transversales, on va au niveau des compétences transférables...
C'est la semaine prochaine que ça devient transversal.
Non.
Oui, on change de terme à toutes les 3 semaines, puis on est la semaine prochaine.
Mais cette idée, c'est que si on veut travailler la collaboration, on veut travailler tous vers un objectif commun, mais si on a chacun notre robot, on peut pas faire ça.
C'est ça. T'as pas la collaboration, t'as pas la communication.
Exact.
Puis c'est le fun d'être capable de lire le cerveau des élèves. Quand ils sont à 2, faudrait que tu mettes un peu plus de pouvoir sur le moteur de gauche, là, parce qu'il curve un peu trop par là. Ils sont obligés de verbaliser ce qui se passe dans leur tête.
Mm-hmm.
Tandis que quand ils sont seuls, tu ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Il faut absolument que tu les questionnes pour savoir ce qui se passe.
Là, j'entends les mots-clés, triangulation, preuve d'apprentissage, critères de réussite. Hein?
Évaluation, c'est ça. Ouais. Évaluation du processus et non juste le produit.
Exact.
Ça, tu vois, de plus en plus dans les concours de robotique, on commence à y penser. Parce que si on évalue juste le produit final... C'est ça dans les concours de robotique. Ouais. Combien de points tu as fait pour la tâche à accomplir? Il manque la partie, tout le processus qui s'est passé pendant que les enfants étaient en train de résoudre les problèmes.
Oui. Puis c'est là que.
C'est là qu'en salle de classe, on peut le faire, la magie.
Il faudrait commencer à valoriser ces aspects-là, non seulement au produit final.
Mm-hmm.
Et là, je pose une question au travers de mon frère qui est un ingénieur et qui ne croit pas au A dans STEAM. Alors, l'acronyme sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, pour lui, nous, au conseil, on croit au A dans le STEM. Qu'est-ce que tu en penses toi, par rapport à l'ego? Est-ce que le A a sa place?
Ben moi, je pense qu'il l'a parce que veut pas. Si tu veux juste regarder la palette des couleurs qu'ils ont inclus dans la trousse Spike Prime, on est très, très loin des couleurs de base qu'on a habituellement dans les trousses de robotique. Mais aussi tout ce qui s'appelle l'aspect design, création. Et de plus en plus, ce qu'on voit aussi, c'est même... Tu as des projets où on vise une tâche, tu sais, déplacer des objets. Ou même la trousse, puis ça, j'en ai pas encore beaucoup parlé, c'est une trousse d'inventeur. On pourrait peut-être en parler après avoir parlé du A, là.
Ouais.
mais il y a beaucoup de projets aussi, parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose d'utile pour répondre à un besoin, mais c'est une belle création artistique.
Okay.
Je vois beaucoup des jeunes pendant la période des fêtes qui vont faire des décorations animées faites avec du Lego robotisé. Mm. Je te parlais de mon village de Lego. De plus en plus, je suis en train de robotiser mon village. Mais c'est une création artistique, le village, là, au niveau de ce qu'on voit, les montagnes et tout ça. Là, donc, on essaie d'assembler pour que ce soit beau. Et de plus en plus, si tu regardes dans les canaux Facebook, tu as une communauté d'adultes qui utilisent le WeDo, le Spike et le EV3 pour faire des belles œuvres artistiques, là. Allez voir, il y en a une, ça s'appelle, je pense, c'est L'homme qui tond sa pelouse.
Ah oui, j'ai vu ça, c'est vraiment...
C'est une œuvre artistique incroyable. Est-ce que ça a une utilité? Pas du tout.
Mm-hmm. Ouais, non.
C'est vraiment une œuvre. Ça pourrait aller dans un musée.
Mais je pourrais passer une quinzaine de minutes à le regarder faire.
Exactement.
Et voir comment il est fait, comment c'est programmé, comment...
C'est ça. Donc, le génie technologique et l'ingénierie qui est allé derrière ça pour qu'il fonctionne. Puis ceux qui ne le connaissent pas, là, c'est un homme qui tonde la pelouse. Donc, il y a vraiment une tondeuse. Et c'est fait avec un genre de chenille qui a la pelouse. Fait que, dans le fond, l'homme ne bouge pas, mais la pelouse bouge. Et les herbes semblent être coupées à mesure que ça passe dans la tondeuse.
On pourra mettre le clip sur la page.
Mais, fait que quand tu regardes ça, c'en est une œuvre artistique qui a été robotisée. Mais qui n'a pas nécessairement d'utilité là, au niveau de la résolution. Pas au niveau de la résolution problème, mais d'utilité au niveau là, de répondre à un besoin.
Mais ça peut répondre à un besoin et être esthétiquement agréable à regarder. Parce que l'idée de mettre... Parce que tu disais tout à l'heure que tout dépendant des trousses, il y a les élèves veulent bouger les capteurs, veulent les orienter différemment pour que ça soit beau à regarder, pour qu'ils ressemblent plus à X ou Y, l'image qu'ils ont dans leur tête. Mais tout ça, c'est le processus artistique.
Ce qui est cool, là, aux internationaux de robotique, tu as certaines équipes qui s'assurent que le robot a l'apparence de leur pays.
Oh! Ça, donc, c'est par très exemple, artistique.
Je le vois ça, beaucoup de l'Allemagne, là, les jeunes vont s'assurer qu'il y a les couleurs de l'Allemagne dans les briques qui ont été utilisées pour construire. Fait que quand tu vois le robot, c'est évident que c'est...
Tu sais exactement
Team Germany qui est devant toi. Là.
Ouais.
Fait que c'est intéressant de voir ça aussi. Fait qu'ils ont passé du temps à l'esthétique et non seulement à la résolution de problèmes. Puis moi, je vous invite à suivre des communautés comme la WeDo 2.0 Community, là. Puis vous allez voir vraiment des adultes qui ont le plaisir d'utiliser des trousses d'enfants pour créer des wow. Des wow autant sur le plan artistique et des fois sur le plan...
En parlant des réseaux, si les gens voulaient te suivre pour voir les photos de la compétition en Hongarie dans quelques semaines...
Oui, moi, je mets beaucoup mes photos sur Instagram, donc D_Tremblay.
Okay.
Je mets beaucoup les photos et je le mets aussi sur ma page Facebook, là. Donc, facebook.com/resources4teachers. Donc, c'est là que je mets la plupart de mes découvertes. Je mets beaucoup aussi, lorsque j'ai les permissions, des photos de travaux d'élèves. Comme ça, vous pouvez vous inspirer. Même après 10 ans, j'ai encore des « wow, je suis subjugué par la quintessence de ta créativité ». Ça sort encore parce que je vois des choses que j'ai jamais vues. Puis c'est le fun que des élèves sortent des choses que j'ai jamais vues. Là, c'est un beau petit plaisir. Là.
Mais ça en dit long aussi sur qu'est-ce que ces élèves-là vont faire dans 20 ans quand ils auront tous les outils pour créer. Bien, ils ont tous maintenant, mais je veux dire, à ce moment-là, ils auront le budget aussi qui va aller.
Oui, puis ils auront une connaissance vraiment plus poussée
ouais.
qui va nous permettre à vraiment avancer.
Ouais. Puis l'aspect inventeur de cette trousse-là, c'est que si tu regardes la plupart des trousses de robotique et même les robots, tu comprends le Dash and Dot, le M-Bot, le B-Bot, le même le EV3, c'est beaucoup des robots de type Rover.
Ouais.
Mm-hmm. C'est deux roues, une bille en arrière ou quelque chose qui permet de pivoter. Mm-hmm. Ça roule, c'est des véhicules qui vont chercher des objets, qui déplacent des objets, qui se déplacent sur une surface. Spike Prime, si tu regardes tous les projets, il y a zéro Rover. Il n'y en a aucun dans la liste des projets suggérés. Parce qu'ils voulaient que ça devienne une trousse d'inventeurs. Donc, par exemple, un des projets, c'est de créer une main pour...
c'est ça là que j'ai fait cet été, moi.
Pour attraper des objets pour des gens, par exemple, qui auraient un handicap.
Mm-hmm.
Ils vont chercher aussi des choses... tu sais, toute l'idée du mouvement fixeur, que je parle dans certains de mes ateliers aussi, oui. Où ce qu'on amène les jeunes à réparer.
Mm-hmm.
Pas toujours maker, mais... Fixer aussi. On ne fait pas juste créer des cochonneries, on en répare aussi.
Ouais.
Donc, il y a une activité qui est l'imprimante. Puis on en a une équipe cet été dans formation ouais. qui a fait l'imprimante. L'imprimante telle qu'elle est présentée, selon le plan de montage, ne fonctionne pas. Et l'objectif, c'est que les élèves doivent modifier l'imprimante pour qu'elle fonctionne.
Mm.
Donc, c'est tout fait avec les Lego de la trousse Spike Prime. Fait que c'est des projets différents. Puis quand on parle du STIAM, le A dans AM, t'as le danseur, par exemple.
Oui.
Où ce que là, tu construis un danseur, il faut que tu l'animes pour créer une chorégraphie. Encore une fois, ouais. c'est pas un robot deux roues Rover. Est-ce qu'on peut faire du robot... Oui, j'en ai un exemple devant vous ici. Fait que tu peux quand même faire ton Rover, il inclut des roues. Mais ils se sont organisés pour que les projets, on lance un message différent. La robotique, ça sert à résoudre des problèmes de la vie courante.
Oui, puis c'est ça le message. Quand moi j'ai été cet été là, à la formation, la plateforme qui va être disponible avec le Spike Prime, c'est voici une situation de la vie réelle. Comment est-ce que tu peux la régler avec des Lego?
C'est
génial. Fait qu'on travaille beaucoup sur la résolution de
problèmes. Processus de design technologique oui, là, qui fait partie de notre curriculum de sciences
ouais. mm-hmm.
est totalement dedans. En fait, il y a même une activité pour chacune des étapes. De comprendre le besoin de ton client jusqu'à créer des prototypes, ouais. jusqu'à tester tes prototypes et jusqu'à...
Réviser.
Tu as vraiment une activité ciblée pour enseigner chacune de ces étapes-là. Mm. L'autre aspect qui est inclus dans la trousse, c'est tout l'aspect entrepreneuriat.
J'allais dire, la prochaine étape, c'est de le vendre.
Oui, c'est ça.
c'est ça que je pensais. Donc, moi, c'était le but.
Et enfin, le retard dans la trousse, parce qu'elle est un peu en retard, là, était censée sortir en fin août, début septembre, puis elle s'était repoussée à janvier. C'est pas la trousse comme telle, parce que vous voyez, je l'ai devant moi, la trousse, elle existe. Les pièces, ils ne les changent plus. L'aspect physique de la trousse ne changera pas. Mais ils voulaient peaufiner les leçons pour être certain d'avoir la perfection avant de...
Ça, c'est sur le site que tu parles.
Ça va être l'application qui va être téléchargeable. Donc, l'application n'est pas encore disponible, veut pas, parce qu'ils sont encore en train de travailler au plan de leçons. C'est ça. Donc, en janvier, les plans de leçons et la trousse vont être livrés. On a hâte.
Et nous, à Viamonde, on a déjà commandé nos trousses. On va recevoir ça en janvier. Alors, ça va être super cool de jouer avec ça. Merci de t'être déplacé pour revenir nous discuter.
Ça me fait plaisir. Une petite annonce que je peux faire aussi pour le EV3.
Oui.
Ils ont décidé de changer l'interface et ils ont copié l'interface de Spike Prime. Si ça vous intéresse d'explorer la nouvelle interface, pour le moment, elle est disponible seulement pour le Mac. Donc, si vous possédez un Mac, vous allez sur le site de Lego et vous pouvez télécharger la nouvelle interface. Si vous la regardez, puis toi, Mylène, tu as déjà fait la formation de Spike Prime, tu vas regarder la nouvelle interface, tu vas dire, c'est pareil.
OK.
Pour le logiciel, évidemment, le Lego reste le même, là. Mm-hmm. La trousse reste la même. Et ça va être disponible pour iPad, Chromebook, Android et Windows à partir du printemps 2020.
Printemps 2020, ça, c'est juste avant les vacances d'été.
Ça. C'est ça. Fait que ça nous donne l'été pour vraiment
pour
l'explorer,
jouer.
Mais si jamais vous possédez un Mac et vous voulez commencer, vous ne pouvez pas attendre. Là.
Ouais.
On peut déjà commencer à
l'explorer. Mylène va aller s'acheter un Mac.
Tu me prêtes-tu ton ordi pour la fin de semaine?
Une fois que j'ai fini de monter
cet épisode. La raison qu'elle est disponible seulement pour le Mac pour le moment, c'est qu'il a fallu qu'ils mettent toutes les attentions sur le Mac parce que Mac, à partir de novembre, ne permet plus les applications 32 bits, juste le 64 bits. Et l'application de Lego était 32 bits, malheureusement. Donc, il avait déjà planifié de faire la transition vers un nouveau logiciel. Ça l'a accéléré un petit peu pour qu'il sorte sur le Mac, parce qu'à partir de novembre, notre Lego Mindstorms ne sera plus compatible.
Puis novembre, ça arrive vite.
Oui.
Bon, ben sur ce, merci énormément.
Hey, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous donne le goût de jouer.
Oui, définitivement.
Toujours.
Je devrais rester ici pour le reste de la journée, puis on joue avec la trousse, hein?
Oui, absolument. Absolument. Moi, on n'a rien d'autre à faire, de toute façon. Merci, Dominique.
Hey, ça me fait plaisir.
Merci.
Merci d'avoir écouté cette émission. Vos animatrices sont...
Jennifer Bansal-Davies,
Mylène Brassard
et Vicky Fauteux. Nous aimerions remercier les directrices des services pédagogiques au Conseil scolaire Viamonde. Les illustrations ont été créées par Francis Fauteux et le logo a été créé par Mylène Brassard.
La musique est de Ralph Grant et elle a été enregistrée au studio de production Guérin.
Suivez-nous sur Twitter à Tout pour et sur Facebook sur notre page Pour toute la classe. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre courriel Gmail à pourtoutelaclasse.gmail.ca.